Claude, on parle de haine et de violence ce matin.
La haine au Brésil quand Jair Bolsonaro triomphe, dont Le Monde, dans les mots d'un de ses amis d'enfance, dresse un portrait accablé. La haine chez nous, dans une brève de Paris-Normandie, un jeune homosexuel aurait été roué de coups à Rouen la semaine dernière. Et si cela ne vous dit rien, allez grâce à Paris-Normandie sur le site du magazine communautaire en ligne Gay Viking. Il y a un lien sur Paris-Normandie, le magazine Gay Viking auquel le jeune homme a parlé. Et là, l'horreur devient minérale dans les photographies d'un corps broyé, martyrisé, et dans les mots de Romain qui avait suivi des inconnus pour faire la fête. Dans la voiture, l'un d'eux s'est rué sur lui. Des coups de poing au visage, sur le corps, partout. Ma tête rebondissait contre la vitre arrière comme une balle. Tarlouse, tafiole, tapette, sale pédé. Ça faisait comme un bruit sourd et continu. Cette fois, c'était moi la victime dont on parlerait dans les journaux. Un jeune homme tué à cause de son homosexualité. Mais Romain, qui s'excuse de ne pas savoir se battre, est vivant parce qu'il s'est réfugié dans une banque où il devait tirer de l'argent pour ses bourreaux. La haine, d'où vient-elle? La question nous traverse après la mort de 11 fidèles dans la synagogue Etzraïm, l'arbre de vie de Pittsburgh aux États-Unis, tué par un homme qui haïssait les juifs, ces enfants de Satan, disait-il sur ce site Gad, où la haine se promène, raconte Libération. Il voulait aussi, cet homme, faire payer aux juifs le fait qu'une de leurs vieilles associations soutenait les migrants. Et dans le New York Times, la journaliste Barry Weiss, enfant de la communauté juive de Pittsburgh, revendique ce souci aux autres. On lisait, dit-elle, samedi dernier dans toutes les synagogues du monde, une portion de l'Ancien Testament où le patriarche Abraham et son épouse Sarah accueillent des étrangers et leur lavent les pieds. Nos tentes, dit Barry Weiss, doivent demeurer ouvertes. Le débat politique n'est pas loin. On met en cause dans Libération la brutalité induite par Donald Trump. Il a légitimé toute cette haine que les gens n'osaient pas exprimer, dit Karen, qui va divorcer parce que les disputes politiques sont devenues trop dures avec son mari républicain. La politique percute même l'intimité des foyers. Le Figaro commence, on la lira. Une série de reportages sur ces États-Unis en nouvelle guerre civile où les amitiés se brisent et où le compromis est devenu impossible. La haine, elle fait peur. On lit dans le Financial Times que les voix dissidentes du monde arabe redoutent maintenant pour leur vie après le meurtre, sans doute par le régime chat saoudien, du journaliste Jamal Khashoggi. La haine, peut-on la surmonter? La Dépêche publie un reportage sur Damas en Syrie qui veut reprendre goût à la vie. Et Nejman, qui a 20 ans, glougloute son narguilé. L'œil noir, rieur et conquérant sous le foulard, sa copine, elle, arbore une épaisse chevelure au reflet bleu punk, et donc dans l'arak, le houmous et le caviar d'aubergine, dans ces cafés où des écrans géants diffusent des images de football, naîtrait l'après d'une guerre pas encore finie dans la ville du bourreau Bachar al-Assad. La Dépêche ne lui pardonne pas.
En France, Claude, le gouvernement voudrait apaiser la société.
Avec un mot de Camus que cite le Figaro et qui prend un sens aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre en nous haïssant. Mais le Figaro ne parle pas ici des violences homophobes, mais plaide plutôt pour la prudence, donc contre l'extension de la procréation médicale assistée aux couples de femmes homosexuelles. Cette PMA qui divise le pouvoir, le président redouterait la division. Est-ce vraiment le premier sujet du pays quand l'opinion pourfend l'État-providence épuisé et combat la funeste préoccupation du pouvoir d'achat, ou quand les contrats de 5 ou 15 ans vont remplacer le statut des fonctionnaires, les échos reviennent sur les annonces de Gérald Darmanin. Dans le Figaro, loin de la une précautionneuse contre la PMA, le chroniqueur économique Jean-Pierre Robin livre une analyse décapante inspirée du livre d'une sociologue. « Nous vivrons, écrit-il, le retour de la troisième classe. Vous savez, ces wagons aux sièges de bois supprimés par la SNCF en 1956, mais leur principe revient avec le Ouigo, le TGV low cost, et au-delà, hôpital, soins dentaires, pompes funèbres, université, partout le service public réinstaure une troisième classe réservée aux plus pauvres qui attendent plus longtemps des services un peu moins bons. Et nous voilà donc revenus à l'ancien régime quand apparaît un tiers état, un tout venant, dit le chroniqueur, 80% du peuple dispensé de taxes d'habitation, ce qui en fait de facto des prolétaires au premier sens du terme.
Et trois histoires de réparation, Claude, pour finir.
La première est technologique, dans Sud-Ouest, qui raconte la future résidence florestine à Bordeaux. Elle sera chauffée par la seule énergie des ordinateurs, car on le sait, les grands centres de calcul, les data centers surchauffent et contribuent au réchauffement climatique, mais grâce à la start-up Carnot Computing, cette pollution calorifique va être domestiquée. Des systèmes informatiques moulineront dans les appartements, tous en chauffant votre salon. Ensuite, un roman vrai en photo, dans un magazine qui s'appelle 6 mois, revue de grands reportages souvent justes, et ici, sublime, j'en insiste, sublime, dans l'histoire de Maggie. Maggie, c'est une jeune femme, déjà mère de 2 enfants à 19 ans, que la photographe Sarah Naomi Lefkowitz a suivi tout en bas de l'Amérique la plus pauvre, avec Shane d'abord, aux muscles et aux tatouages d'anciens tolards, qui finit par la battre devant la photographe, et puis dans des errances de la pauvreté, et enfin avec un gentil garçon, la casquette à l'envers, qui lui a refait un enfant, et on comprend tout du dénuement et de la tendresse des petites gens d'un grand pays égaré. Enfin, un homme qui lui dessine, Luce, que vous avez reçu récemment, Augustin, Luce qui était de Charlie Hebdo, dont il raconte les belles années d'avant. Mais dans Libération, il dit avec vie comment il a survécu après janvier 2015 par sa femme, Camille Emmanuel, journaliste spécialisée dans les questions de sexualité. Elle l'emmène en reportage dans des sessions fétichistes, mais surtout elle lui inspire ceci. C'est l'amour fou. Elle est géniale. Tu as lu son livre, formidable. Et son cul, il est magnifique, non? Le reste, y compris leur position sexuelle, un peu décrite, leur appartient. Mais c'est merveilleux.
Voilà, c'était des citations de Luz. Merci Claude Askolovitch pour cette revue. Presse.